Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, chapitre 3, Sous terre. L'enfant était rompu à l'exercice à présent et ne protestait plus que par un fugitif regard d'effroi. Son petit corps était parcouru d'un haut-le-cœur et puis, presque sans transition, le maître était en lui. L'expression farouche et toujours un peu vide de cette âme sans langage laissait place à une intelligence froide et insondable. Les mouvements se faisaient moins souples, moins déliés, mais plus augustes. La voix, enfin, que Joris ne connaissait qu'à travers des cris inarticulés, modulait des vibrations humaines. Le contraste entre sa tessiture enfantine et le ton d'impérieux commandement était saisissant. La colère, puissante comme une tempête, déferlait de cette bouche où les dents de lait s'alignaient encore dans l'éclat nacré de la première enfance. Joris parvenait toujours à savoir si l'enfant était habité ou non. Il avait aiguisé son esprit de telle manière qu'il percevait immédiatement la présence de Sornar, qui représentait pour lui une inquiétude permanente. Le maître était de plus en plus avide. Il s'irritait de ce que l'enfant ne grandissait pas assez vite. Il s'irritait de ne pas réussir encore à l'habiter perpétuellement. Il s'exaspérait de ne pouvoir utiliser l'esprit dans son nouveau corps comme il le faisait dans l'ancien, car toute sa puissance spirituelle étant consacrée à la possession, il ne pourrait probablement utiliser l'esprit que lorsqu'il se serait pleinement incarné. Son existence éthérée l'avait rendu sensuel, et dès qu'il redevenait humain, il lui fallait des nourritures fines, du vin, des caresses aussi, qui répugnaient à Joris, mais dont il s'acquittait sans souffler mot. Sornar semblait brûler de l'intérieur, d'un désir permanent de dominer, de jouir et de nuire. Joris, qui avait tant admiré en lui l'esprit fort et solitaire, le chercheur inlassable des sommets du savoir, l'ascète, qui avait arraché l'immortalité par la continence et le mépris du corps, ne reconnaissait plus son maître. Mais le joug était là, plus puissant encore. Sornar avait pris le pouvoir sur le monde physique. Il faisait geler le sang dans les veines, il faisait s'effondrer les montagnes, il n'y avait rien à lui opposer. « Tu pues la sédition, Joris !» dit l'enfant d'un air moqueur. « Je vous suis entièrement soumis, maître. Tu ne m'aimes plus comme avant, mais qu'ai-je à faire de ton amour? Je n'attends qu'une chose, que cette petite carcasse répugnante devienne un corps d'homme, capable de broyer et de jouir. Patience, maître !» Ce petit corps est mon bien le plus précieux, Joris. Aucun autre homme ne m'accueille si humblement. S'il venait à disparaître, je prendrais le tien et t'enfermerais dans les ténèbres de ton âme jusqu'à ta mort. Je le sais, maître, je protégerai l'enfant, quoi qu'il dût en coûter. Il est inutile de me menacer à chaque fois. Tss, se moqua l'enfant, tu enrages. J'aime l'ironie de ton histoire, car c'est toi qui m'as tiré de ma conscience impersonnelle pour me rappeler que j'étais un homme. Sans toi, je serais toujours en train de circuler entre la sève des arbres et les tremblements de l'eau à la surface des lacs. Ha ! Comme tu dois regretter ta fidélité ! Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir, maître, comme toujours. Ce que j'en pense ponctuellement n'a pas la moindre importance. Tu dis vrai. Qu'allez-vous faire au sujet des gens d'Albâtre ? Faut-il envoyer les frères pour prévenir leur intrusion ? Tss ! Je n'ai pas besoin des frères pour les réduire en cendres. Il me suffit de le vouloir, Joris. Les gens d'Albâtre sont des fourmis sous ma botte. Leur intrusion pourrait être préjudiciable à votre corps, maître. Surtout au vôtre, en réalité. L'enfant n'a pas grand-chose à craindre de ses parents. Où serait-il mieux protégé qu'au sein de sa famille ? Il vous faudrait composer, mentir. « M'en crois-tu incapable ?»« Non, mais je n'en vois pas l'intérêt. »« Si je détruis Albâtre, Joris, sur quoi vais-je régner lorsque j'en aurai l'âge ? Crois-tu que je vais passer mon existence terrestre à remuer cette terre noire et grasse comme un ver ? J'aurai besoin d'un peuple, d'une ville, de femmes. Ce petit corps n'est-il pas celui d'un prince d'Albâtre ?» Joris ne répondit rien. Il tentait de comprendre le plan de son maître. Il ne faisait que gagner du temps sous terre avec les frères sombres. Les gens d'Albâtre viendraient tôt ou tard, et alors Sornar changerait de camp. Il les abandonnerait. Nous pourrions tout aussi bien fuir, investir par exemple les ruines de la cité monastère et abandonner l'enfant au pied de la cité. Cela ferait tout aussi bien votre affaire. Presque. Qu'avez-vous à gagner à notre présence sous terre ? Le temps, Joris, le temps, que je ne maîtrise pas encore et qui est mon unique ennemi. Le petit corps me recrache encore de temps à autre, mais chaque fois mon emprise est un peu plus longue. Je voudrais pouvoir me réincarner bien totalement, l'investir de manière absolue, me transsubstancier encore une fois, grâce à votre aide. J'ai besoin de vous, mes frères, pour une cérémonie pareille, mais elle ne pourra se faire que dans 12 ans, au mieux. Vous abandonneriez votre immortalité ? Immatérialité et immortalité vont de pair, Joris, ce qui signifie que pour exister corporellement, il faut être mortel. Et l'immatérialité m'ennuie à un point que tu ne saurais imaginer. Je suis en transit dans cette cité. Je suis là de jouer les fantômes. Les gens d'Albâtre n'attendront pas 12 ans pour venir nous débusquer. Et que se passera-t-il, noble Joris ? Une confrontation physique et mentale qui affaiblira les deux camps. Et qui en sortira vainqueur ? Vous, de toute façon, à moins que le petit corps ne périsse dans les combats. L'enfant perça l'expression de Joris avec un regard aigu. Serait-ce une menace, Joris ? Je ne suis pas en position de menacer, maître. Vous avez été très clair sur mon châtiment s'il arrivait malheur à votre petit corps. C'est bien. Tu juges donc l'altercation dangereuse. Il y a un risque indéniable. Un enfant de 3 ans n'est pas solide, et vous devrez le laisser livrer à lui-même pour participer au combat. Vous ne pouvez pas être à la fois en lui et dans la montagne. Je ne prendrai pas ce risque. Je resterai en lui. S'il me découvre, il faudra que je joue ma fine comédie. On ne va pas livrer à ces braves gens un vulgaire enfant sauvage, tout de même. Nous perdrons des plumes. Nous serons peut-être détruits. Quid alors de votre transsubstantiation future ? Une partie d'entre vous ira s'établir à la cité monastère. Dès ce jour, ils continueront la même routine que d'ordinaire, ils supporteront les sièges s'il y en a, et ils me serviront fidèlement dans 12 ans afin que je les récompense de leur fidélité. Dois-je prendre la tête de cette communauté ? L'enfant Sornard semblait s'amuser beaucoup. Il sauta à terre depuis le renfoncement rocheux, à hauteur d'yeux, où il se tenait jusque-là. « Non, Joris, tu dois ferrailler avec ta propre sœur, et ton beau-frère, songe donc. Tu es le méchant de l'histoire. Tu dois, à ton choix, te jeter à leurs pieds pour leur demander pardon, ou bien te faire gentiment tuer. C'est ainsi que l'histoire doit finir, tu ne crois pas ? Et vous ? Tu leur diras que je suis mort de mes brûlures. Tu leur montreras mon corps, même si tu le souhaites. Est-il tout à fait méconnaissable ou peut-il encore servir ? Joris épongea la sueur qui perlait à son front, malgré la fraîcheur éternelle de la grotte. « Il peut encore servir, maître, j'y ai personnellement veillé. »« Ta cuisine de cadavre me dégoûte, Joris. Tu leur raconteras ton plus joli conte, que j'irai même jusqu'à corroborer si tu le souhaites, mon oncle. »« Fort bien, je vous enfermerai à triple tour dans le plus noir cachot. Je combattrai à la tête du quart des hommes qui resteront. Je suppose que nous devrons perdre le combat. » « Bien entendu. À Eleanor, Keller, vivant, bien sûr, et sur le trône, si possible. N'oublie pas que tu parles de mes parents. »« Sur le trône ? Tu n'es décidément au courant de rien au fond de ce clos à qui monde. Il y a des élections en Albâtre. À Eleanor peut accéder au pouvoir. » Joris hocha la tête, enregistrant l'information. L'enfant continua d'une voix amusée. « Je vais l'aider un peu, d'ailleurs. » Tous ces citoyens me paraissent beaucoup trop stupides pour qu'on leur confie l'avenir d'Albâtre. Je ferai un numéro dont tout le monde se souviendra. Et après cela, Aélénor régnera sans partage. Le mal sera purgé de la ville grâce à elle. Elle sera l'héroïne de ce beau roman. L'enfant éclata d'un rire hystérique. Maman ! Joris regardait la créature se tordre de rire, empreint d'un malaise grandissant. L'enfant éructait, devenait rouge, puis les rires se transformèrent insensiblement en haut-le-cœur, et il cracha violemment des glaires noirâtres et nauséabonds. Sornard avait été évacué du corps de l'enfant, qui reprenait sa respiration et son calme, immobile, comme un animal malade. Joris allait lui adresser la parole, et se retint au dernier moment en se mordant la lèvre. L'enfant le regarda au fond des yeux, d'un air profondément interrogateur. Joris lui indiqua sans trop de rudesse le chemin de la cellule où il lui porterait tantôt à manger. Se pouvait-il que l'enfant ait conservé quelque chose de sa vie utérine, un lien avec sa mère par-delà les ténèbres de son âme vide? Le petit enfant sauvage, souple et furtif, la peau si blanche qu'elle attrapait les rares rayons de lumière, les yeux exorbités de scruter l'obscurité, s'en allait docilement vers le cachot qu'il avait vu grandir.